Journée 7h42 en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous, Babacar Diarra, en football, le TP Mazembe veut faire vibrer son public en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Les Corbeaux accueillent l'Al-Ahly du Caire, tenant du titre et grand favori pour la victoire. Mais le club de Lubumbashi veut conserver son invincibilité cette saison dans son chaudron de Kamalondo. Alors le rêve est permis pour les joueurs de Lamine Dia et notamment l'enfant du club, Joël Beya, buteur en quart face au Petro Atlético. Il s'apprête à vivre sa première demi-finale de C1.
C'est une première, une grosse première pour nous, par exemple pour moi. Et je me sens bien, je me sens très bien, excité, avec beaucoup d'envie pour affronter ces demi-finales-là. Après, on est parti de là, ce qu'on peut appeler quand même un échec de la saison dernière, mais on est parti de ces erreurs-là, de ces leçons-là pour essayer d'améliorer. On a commencé très tôt déjà, on n'a pas eu beaucoup de temps de vacances. On a vraiment bossé dur d'arrache-pied pour en arriver là. C'est vrai que c'est le Ahly, un très grand club en Afrique, mais après, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'interdire de rêver. Et après, on travaille. Le plus important, c'est de travailler pour gagner, pas seulement rêver, mais pas seulement le vouloir non plus, mais aussi travailler. Et c'est ce qu'on est en train de faire, travailler pour remporter.
Joël Beya au micro de Pascal Mwangala, Mazembe Al-Ahly, coup d'envoi 13h temps universel.
Dans la soirée à 19h, l'Espérance de Tunis jouera à guichet fermé au stade de Rades dans l'autre demi-finale.
Une enceinte bouillante pour le choc face au Mamelodi Sundowns. Là aussi, les Sangaillors paraissent légèrement moins favoris face à des Sud-Africains vainqueurs en novembre de la première édition de l'African Football League. Mais les deux clubs sont sortis vivants des quarts par le biais des tirs au but. L'entraîneur portugais de l'Espérance, Miguel Cardoso, appelle ses joueurs à prendre leurs responsabilités.
On est au moment de la compétition, demi-finale, où sont les quatre meilleures équipes cette année dans la Champions League, dans l'Afrique. Tout le monde sait la valeur de cette équipe après que le président l'a acheté le club et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, donc quels moyens l'équipe a à sa disposition. Mais je crois toujours à mes joueurs. C'est le moment de penser grand. On doit pas, si on entre à penser petit, on va être petit. Donc c'est le moment qu'on est capable de mettre le meilleur combat. Donc ce sont deux équipes à chercher ses meilleurs niveaux pour qu'au final, être meilleur pendant les deux matchs. Et au final, obtenir la passage à la finale. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on va faire tous pour obtenir, bien sûr.
Miguel Cardoso avec Eddy Gbeniani.
Et puis à la Basketball Africa League, le Bangui Sporting Club vise la victoire à l'occasion de la deuxième journée de la conférence Nil.
Le club centrafricain a manqué son entrée en matière hier avec une défaite de 22 points face à l'Al-Ahly Benghazi. L'autre Al-Ahly, celui du Caire, a également battu lourdement les Ougandais de City Oilers. Et aujourd'hui, Bangui espère obtenir sa première victoire de la compétition. Ce sera face au City Oilers justement à 17h. Dans la foulée du match des Al-Ahly égyptiens et libyens à 14h.
Babacar Diarra, merci. Et comme chaque week-end à cette heure-ci, on continue sur RFI notre série Les mots des JO avec Lucie Bouteloup. Lucie qui nous parle aujourd'hui de la devise olympique.
Les mots des JO, Lucie Bouteloup.
Situs, altus, fortus, en français ça donne plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique, dans sa forme initiale, existe depuis la création des premiers jeux de l'ère moderne. Parce que pour Pierre de Coubertin, en plus d'un hymne et d'un drapeau, les jeux doivent également se doter d'un slogan fidèle à l'idéal olympique. Mais au fait, qu'est-ce qu'une devise ? Le mot vient de l'ancien français « devis ». Au XIIe siècle, il désigne à la fois la division, le blason, mais aussi le récit. Ce qui va d'ailleurs donner le sens du verbe « deviser » quand on dit qu'on discute avec quelqu'un, par exemple. Aujourd'hui, la devise, c'est une formule brève qui caractérise une pensée. C'est en quelque sorte un mot d'ordre, une règle de vie. Et c'est précisément ce que cherche à traduire Pierre de Coubertin. Il trouve l'inspiration auprès de son ami, le prêtre dominicain Henri Didon. C'est lui qui, à l'issue d'une rencontre sportive qu'il organise, va prononcer la formule latine. Coubertin est emballé et il décide de la prendre à son compte. Mais il inverse l'ordre des mots et il change aussi le sens de l'énoncé. Quand Didon prône plus de vivacité d'esprit, plus de force morale et plus d'élévation spirituelle, son ami, lui, souhaite encourager les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'excellence personnelle. Mais pourquoi une devise en latin ? Eh bien, j'ai posé la question à Patrick Clastre, il est historien de l'olympisme à l'université de Lausanne.
La devise en latin, c'était la devise des gentlemen, ceux auxquels Coubertin réservait les compétitions au départ. C'est un club très fermé de pratiquants qui utilisait l'amateurisme comme une barrière de classe et de genre, voire même de race, pour se séparer des ouvriers, des femmes et des indigènes, comme on disait à l'époque. Et le latin, ça leur servait de ciment culturel d'une certaine manière.
La devise est adoptée et elle figure sur le premier drapeau olympique. Et puis, au fil du temps, avec la place proéminente de l'anglais dans le monde, la formule latine est délaissée au profit de la version anglaise et on dit plus volontiers « faster, higher, stronger ». Trois mots auxquels Thomas Bach, le président du CIO, propose d'ajouter en 2021 l'adverbe « together » pour « ensemble ». Parce qu'ensemble, eh bien, c'est un mot inclusif qui tempère l'esprit de compétition qui peut parfois favoriser les excès du dopage ou de la triche chez certains athlètes. C'est un mot aussi qui encourage à plus de solidarité et à plus de respect. Le respect qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois principales valeurs olympiques avec excellence et amitié. Mais ça, c'est une autre histoire.
Les mots des JO, une chronique avec le soutien des ministères de la Culture, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Sports.
Lucie Boutelou, les mots des JO à retrouver sur le site françaisfacile.rfi.fr. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Deux semaines après son départ du pouvoir, l'ancien président Macky Sall, en sa qualité d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, a pris contact avec le secrétaire général des Nations Unies, puis avec les milieux de la finance à Washington, en marge des assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Pourquoi donc certains Sénégalais ne veulent y voir qu'une anomalie gênante pour son successeur ?
Chacun y verra ce qu'il voudra. L'essentiel ici est que la fin d'un mandat politique cesse d'être vécue en Afrique comme une malédiction. Sur la vitalité d'une démocratie, ce que deviennent les anciens chefs d'État après le pouvoir est édifiant. Et le Sénégal, de ce point de vue, est un exemple plutôt plaisant. Fin 1980, Léopold Sédar Senghor, 75 ans, quitte volontairement le pouvoir. Trois ans plus tard, il passe à l'immortalité, élu à l'Académie française. Mars 2000, son successeur, Abdou Diouf, 65 ans, est battu à la présidentielle par Abdoulaye Wade. Deux ans après, il devient secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Peut-être que s'il n'avait pas préféré, à 86 ans, le repos du guerrier, Wade aurait eu droit à sa petite sinécure de jeune retraité, comme Macky Sall, qu'il avait battu en 2012 et qui a sa nouvelle vie désormais, loin de la gestion de son successeur. Que Paris ait été pour beaucoup dans la reconversion de trois des quatre anciens chefs d'État sénégalais est peut-être une forme de soutien à la démocratie sénégalaise en dépit des récriminations que nourrissent certains à l'égard de l'ancienne métropole.
Mais Macky Sall pourrait-il vraiment, dans ses nouvelles fonctions, gêner son successeur ou nuire au Sénégal ?
Sa mission actuelle est celle d'un ambassadeur de bonne volonté qui plaidera pour lever des fonds en faveur des pays confrontés au dérèglement climatique. Les nationaux de certains pays africains craindraient plutôt qu'ils ne favorisent parfois le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko parce que les Sénégalais aiment leur pays qui a toujours eu une diplomatie des postes dans les institutions internationales, déployant tous les efforts pour promouvoir ses ressortissants à charge pour ceux-ci d'aider en retour leur patrie à mériter les meilleurs projets et financements. À la différence d'autres nationalités africaines, le Sénégal ne brise pas ses propres ressortissants sous prétexte qu'il ne serait pas du parti au pouvoir ou de la région d'origine du chef de l'État. À l'international, les Sénégalais savent transcender leur rivalité partisane. Ce qui peut subsister d'animosité entre eux se joue ailleurs. Sur la scène internationale, Senghor n'a jamais gêné Diouf, qui n'a jamais gêné Wade, qui, même s'il lui en voulait, n'a jamais gêné Sall. C'est à leur capacité à situer la patrie au-dessus de leur rancœur tenace ou passagère que l'on apprécie les véritables hommes d'État.
Mais le Sénégal n'est tout de même pas seul à compter de tels hommes d'État, Jean-Baptiste.
On en trouve en nombre, notamment dans les pays lusophones et anglophones, que nous citons souvent en exemple ici. Mais on n'oublie pas qu'en francophonie, une des successions les plus violentes après coup a été celle du Cameroun où Amadou Ahidjo avait, en novembre 1982, transmis le pouvoir à son premier ministre, Paul Biya, tout en gardant le contrôle du parti afin, disait-il, de calmer certains barons hostiles au successeur. Cela se transforma bientôt en une omniprésence d'un Aïdjo campant sur la prééminence du parti avec des incongruités protocolaires qui achèveront de ruiner ses relations avec Biya. Lorsque survient en avril 1984 une violente tentative de coup d'État, l'ancien président qui avait publiquement regretté d'avoir cédé le pouvoir à Biya s'empresse de suggérer que le putsch réussirait s'il était le fait de ses partisans. À Yaoundé, on le tiendra pour responsable, même si certains auteurs présumés confient ensuite n'avoir rien à voir avec Aïdjo. Peut-être que Aïdjo peut habituer à ne plus passer en premier. C'était mort fondu dans l'ennui et une certaine nostalgie, ce qui ne risquait pas d'arriver à Senghor, le poète devenu académicien français.
Jean-Baptiste Placat, merci beaucoup. Et sur RFI, bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche bientôt à sa fin et c'est l'heure d'écouter le monde. Votre voyage sonore chaque week-end avec Monica Fantini cap aujourd'hui sur Madagascar pour entendre les sons du quotidien au bord du canal du Mozambique, un village de pêcheurs, des chants d'oiseaux, des chœurs de jeunes filles à l'église ou les cris sur la plage des petits footballeurs.
Écoutez le monde.
Écoutez un davadoc de l'aube à la nuit.
Eh ben, allez, à demain.
Écoutez.
Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.
Écoutez le monde.
How many children do you have?
23. 22, baby, voilà. Real bad man.
Mérite que je t'appellerai mi amor. J'ai du temps pour un petit corps. Mais maman, si t'as vu plus qu'un rapport, elle veut plus qu'un rapport, elle veut qu'un baby éclore. Obligé de lui retourner sur le cou. J'caresse en bas et j'fais bisous sur le cou. Même endormie, elle me réveille encore. Elle me réveille encore. Elle veut qu'un baby éclore. Comment chanter sa pussy, son wata. J'suis enfant, mais j'crois qu'elle s'appelle Mami Wata.
Comment chanter sa pussy, son wata. J'suis enfant, mais j'crois qu'elle s'appelle Mami Wata.
Et ces paroles en l'air qui sont pas rentrées dans mon cœur. Et ces paroles en l'air qui sont pas rentrées dans mon cœur. J'ai voulu juste des infos, ça a juste augmenté ma peur. Le bazar était naturel, alors j'ai transformé son corps. Donc j'ai gardé toutes mes forces pour protéger les miens. Je sais, je suis l'un des seuls à pas toucher ses uns. Car je connais la force de mamie Wata. Elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait. J'ai pas préparé quel coup. Quand elle rentre dans la pièce, y'a son bout qui fait boum. J'ai pas préparé quel coup. Quand elle rentre dans la pièce, y'a son bout qui fait boum. J'ai pas préparé quel coup. Quand elle rentre dans la pièce, y'a son bout qui fait boum. J'ai pas préparé quel coup. Quel coup, quel coup.
Mérite, je t'appellerai mis à mort. J'ai du temps pour un petit corps. Mais maman, si t'as veux plus qu'un rapport, elle veut plus qu'un rapport, elle veut qu'un baby éclore. Obligé de lui redonner sur le coup. Je caresse en bas et je fais bisous sur le cou. Même endormie, elle me réveille encore. Elle me réveille encore. Elle veut qu'un baby éclore. Comment chanter sa poussi, son Wata. J'suis enfin, mais je crois qu'elle s'appelle Mami Wata.
Sa poussi sans Wata. J'suis informé, j'crois qu'elle s'appelle Mami Wata.
L'impression qu'elle veut m'ensorceler, décadenasser mon petit cœur scellé. Grave concentré pour vouloir essayer. Pardon, là faut pas me gêner. Mais en pleine action, j'ai pas su dire je t'aime. Qu'autant que je suis pas tombé dedans, mais j'ai failli. Même si j'ai un peu, mais tu vas pas me voir flancher pour toi. Mérite, je t'appellerai mis à mort. J'ai du temps pour un petit.
Un talent français de la drill adoubé par Booba Gazo, le rappeur d'origine congolaise Diakola, sur le titre Mami Wata. C'est dans la playlist d'RFI. Et c'est ainsi que se referme RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. D'ici là, l'info continue. Le journal dans une minute. Très bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Presque un mois que Bassirou Diomaye Faye a été élu à la tête du Sénégal. Comment juger ses premières annonces économiques? Quels sont les principaux chantiers pour son gouvernement et pour ce pays qui cherche à asseoir sa souveraineté? Entretien avec un économiste sénégalais et un chef d'entreprise issu de la diaspora.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la BOAD,
tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Cette semaine, le Club RFI d'Abomey Calavi, Jeunesse Positive du Bénin, parle de la 9e édition du concours Jeunesse Francophonie. Une initiative organisée dans plusieurs écoles qui consiste à inciter les jeunes à s'intéresser à la littérature, l'écriture et à l'art oratoire.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Dimanche, à partir de 19h40 TU.
RFI.